vous suit.
Voici les titres du journal.
À Colombey-Murat, la fusion avec Monté a largement occupé les discussions hier soir au Conseil Général. Finalement, le oui l'a emporté à plus de 60%. Et pendant ce temps, le même vote à Monté n'a été qu'une simple formalité. Le Conseil Général a dit oui à ce vote consultatif à une large majorité. À l'occasion de son premier anniversaire, l'épicerie solidaire de Massonger se développe. La structure devient une association à but non lucratif, une manière d'assurer sa pérennisation. En hockey sur glace, Lausanne devra passer par la case pré-play-off pour éventuellement retrouver Fribourg en quart de finale. Et en basket, le BBC 3 Torrents s'est profité de tous ses matchs pour préparer ses joutes de fin de saison.
Des éclaircies pour la plaine cet après-midi. Les sommets seront, eux, dans les nuages. Et puis pour demain, le temps s'annonce ensoleillé en toute région. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Thierry Nicolet. Bonjour Thierry.
Bonjour Axel, bonjour à tous. 61% de oui, c'est le pourcentage du Conseil Général de Colombey-Murat qui a validé hier la fusion avec Monté. Un vote consultatif à bulletin secret après près de 2 heures de débat. Des échanges qui ont été fort utiles aux yeux du président Olivier Turin.
Je pense que comme dans tous les législatifs, les positions sont en général figées à l'avance. Les personnes qui sont venues ce soir, à mon avis, étaient déjà convaincues du oui ou du non. Donc finalement, maintenant, ce soir, c'était surtout une discussion, que chacun expose ses arguments, qu'ils soient pour ou contre.
Des arguments entendus par le public, puisqu'une trentaine de citoyens étaient présents hier soir, ce qui a réjoui le président de la commune, qui espère que les Colombérous s'exprimeront en masse le 15 mai prochain. On retrouve Olivier Turin.
Ce qui est important, c'est que la population se prononce. Il faut que les gens, s'ils sont convaincus du oui ou du non, peu importe, qu'ils aillent voter, qu'ils se positionnent. Ce serait important pour nous de dépasser en tout cas les 50%.
50% de participation, donc espéré par la municipalité de Colombey-Murat dans 2 mois. Et du côté de Monté, le même vote était à l'ordre du jour de l'Assemblée législative. Ce point n'aura clairement pas été le plus discuté. Après les prises de parole concernant l'entrée en matière, le scrutin était plié en quelques minutes. Résultat, 50 oui, 4 non et une abstention. Le président de la ville, Stéphane Copé, a évoqué un moment extrêmement important, pour ne pas dire historique, pour la commune et la région. Cette prise de position favorable ne tombe toutefois pas de nulle part. Elle est issue d'un vaste travail en amont. Stéphane Copé.
4 années de procédure où l'on a pris le temps à la fois d'analyser l'ensemble des domaines, non seulement sur le principe d'une fusion, mais sur l'aspect financier, l'aspect service à la population dans les différents domaines qu'une administration communale peut offrir. Donc cette analyse a été importante, elle a démontré réellement la plus-value dans l'ensemble des structures que l'on a au niveau communal, des participations de la population, que ce soit à travers les ateliers que nous avons mis en place, que ce soit à travers les sondages réalisés. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a évolué. Nous avons toujours dit que cette fusion devait être réfléchie avec la population.
Un travail de longue haleine qui se traduit donc par les 2 oui des conseils généraux à Colombey-Murat et à Monté. Mais rappelons qu'il ne s'agissait hier soir que de votes consultatifs. On retrouve Stéphane Copé.
Consultatif, effectivement, uniquement, j'utiliserai pas ce terme, puisque les conseils généraux sont les représentants de la population. Et donc c'est quand même significatif de voir que plus du 90% des représentants de la population soutiennent cette démarche. Et donc on peut être satisfait, évidemment, que c'est le vote du peuple, in fine, qui tranchera.
Mais clairement, pour vous, ce résultat, il va, si on veut bien, faciliter la tâche après sur le terrain, dans la campagne.
Alors c'est un aimant, je dirais, important et un signe prometteur pour la suite, mais évidemment que le travail doit se poursuivre dans les prochaines semaines, jusqu'au 15 mai. On doit réellement convaincre la population de l'énorme plus-value d'avoir une administration qui gère l'ensemble des 2 territoires, à nouveau avec les spécificités de chacun des villages des 2 communes.
C'est donc bien le peuple qui aura le dernier mot. Le rendez-vous dans les urnes est fixé au 15 mai. D'ici là, les 2 camps mèneront campagne afin de convaincre la population. Un sujet réalisé par Valérie Blom et Alexandra Claude.
L'épicerie solidaire de Massonger fête sa première année d'existence.
Et à cette occasion, le comité a annoncé que la structure allait prendre une nouvelle forme. Elle devient désormais une association à but non lucratif et pourra ainsi gérer un compte bancaire attitré ou encore produire des attestations fiscales pour les donateurs. Le tout en devenant indépendante vis-à-vis de la commune. Cette aventure, débutée le 15 mars 2021, il y a 1 an, sera ainsi pérennisée. L'occasion d'établir le bilan d'une année de soutien aux personnes en difficulté financière dans le village. Sylviane Coco, présidente de Massonger et de la nouvelle association.
Cette première année, elle a été progressive. C'est vrai qu'en démarrant, on n'avait aucune idée de la demande qu'il y aurait. C'était un petit peu un ressenti suite aux images vues, entre autres durant le Covid, de ces longues files d'attente pour obtenir des vivres. Et on s'est dit, est-ce que dans un village comme Massonger, il y aurait une sorte de pauvreté insoupçonnée, un besoin à ce niveau-là, au niveau alimentaire. Et on a démarré tout doux au mois de mars l'année passée et ça a augmenté durant toute l'année et on s'est rendu compte que oui, il y avait aussi des besoins au niveau première nécessité pour des gens qui étaient en difficulté temporaire ou durable, à laquelle on pouvait répondre de manière simple.
À noter que des portes ouvertes seront organisées aujourd'hui à l'épicerie. Il sera possible d'aller y découvrir son fonctionnement entre 17h30 et 19h30. Vaux invite à parler cash durant une semaine. Du 21 au 27 mars, la Swiss Money Week sensibilisera les enfants, les jeunes et les adultes à un sujet fondamental, mais encore souvent tabou, la question de l'argent. À travers son programme de prévention du surendettement, le canton proposera plusieurs événements gratuits, ouverts à toute la population. Les détails du programme sont présentés sur le site parlons-cash.ch.
Le Paléo Festival complète son affiche.
M, La Femme, Folamour, Arma Jackson, Berrywam, Sopico et une cinquantaine de nouveaux groupes et artistes rejoindront Kiss, Angèle, Stromae ou PNL entre le 19 et le 24 juillet à Nyon. Au total, le festival accueillera plus d'une centaine de noms, entre pépites rap, chansons décalées, dub puissante, envolée pop et rock, électro dans tous ses états, human beatboxing ou encore traditionnel concert classique. Les CFF ont encore fortement été touchés par le coronavirus l'an dernier. Le volume de passagers a été de 33,1% inférieur à celui de 2019, avant la pandémie. Cela s'est traduit par un déficit de 325 millions de francs.
En raison d'une météo extrême, la vendange en Suisse l'an dernier a été la pire en quantité depuis 1957.
Alors que la production a atteint 95 millions de litres de vin en moyenne au cours des 10 dernières années, elle s'est élevée à seulement 61 millions de litres en 2021, soit une baisse de 36%. En Valais, le canton avec la plus grande surface de vignes, la récolte a même été la moitié moindre que la moyenne selon les chiffres du canton. Mais il y a un constat positif mis en avant par l'Office fédéral de l'agriculture. Le temps idéal de la fin de l'été a donné aux raisins restants une excellente qualité. Contre l'avis du Conseil fédéral, le Conseil national a accepté ce matin la possibilité d'utiliser l'entier de son deuxième pilier afin de devenir plus facilement propriétaire de son logement principal. C'est l'autorité de surveillance des marchés financiers, la FINMA, qui avait décidé en 2012 que seule la moitié des fonds propres minimaux nécessaires pouvaient provenir de sa prévoyance professionnelle, et ce dans le but de calmer le marché de l'immobilier et éviter l'éclatement d'une bulle. Rapporteur de la commission en faveur de la motion, le PLR Philippe Nantermo dresse un constat de la situation depuis l'application de cette mesure de la FINMA.
Le prix de l'immobilier n'a fait que croître depuis, donc la mesure en tout cas n'a pas a priori atteint ses objectifs. Quand même, on nous dirait que sans cette mesure, la bulle aurait cru davantage. En pratique, ce qui s'est passé, c'est que ce sont les caisses de pension qui ont investi dans l'immobilier et le propriétaire qui ne devait pas être propriétaire de son logement est devenu locataire de sa caisse de pension. Donc le résultat sur le marché immobilier est exactement le même, sauf que le propriétaire, au lieu de payer 1% d'intérêt, il paye 5% par le biais de son loyer. Mais ça va même plus loin, puisque la caisse de pension construit des immeubles vides et contribue à créer cette bulle immobilière que l'on redoute. Donc je pense que c'est au contraire contre-productif. Le système du retrait du deuxième pilier ne fonctionne que pour le premier logement, ça ne fonctionne pas pour la résidence secondaire. Je rappellerai aussi qu'en Suisse, on a le taux de propriétaires parmi les plus bas d'Europe. Mais avoir des propriétaires, c'est des gens qui sont attachés au lieu où ils vivent, c'est des gens qui sont un peu plus stabilisés dans leurs finances.
La gauche, par contre, a majoritairement rejeté cette motion. Selon vous, pourquoi ?
Ici, l'accès à la propriété pour les gens qui n'ont que leur deuxième pilier, c'est permettre à la classe moyenne de devenir propriétaire et donc de réduire ses charges de logement. Ça devrait être le combat du Parti Socialiste. Peut-être qu'il cherche des adhérents à la SLOCA.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Frédéric Nejad Toulami. Le Conseil des États se prononcera à son tour sur cette motion durant le courant de l'année. En France, l'état de santé du militant indépendantiste corse Yvan Colonna est toujours gravissime. Il n'est jamais sorti du coma depuis son agression en prison, a expliqué l'un de ses avocats, maître Patrice Spinozzi, ce matin à France Inter, en confirmant qu'une demande de suspension de peine allait être déposée. Condamné à la prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat du préfet Erignac en 1998 à Ajaccio, Yvan Colonna avait été agressé par un co-détenu le 2 mars dans la prison d'Arles. Depuis cet événement, la tension est fortement montée en Corse pour culminer en émeute ce dernier dimanche à Bastia. Émeutes qui ont fait 102 blessés, dont 79 membres des forces de l'ordre, selon un dernier bilan disponible aujourd'hui. En Ukraine, quasiment chaque seconde qui passe, un enfant devient un réfugié. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ces 20 derniers jours, environ 1,4 million d'enfants ont été forcés de fuir le pays, soit environ 55 par minute. Au total, ce sont 3 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur terre. La mairie de Kiev a imposé un couvre-feu de 36 heures à partir de ce soir, 20 heures, dans la capitale ukrainienne. Capitale qui vit un moment dangereux et difficile, a annoncé le maire Vitali Klitschko, puisque la ville a subi des bombardements ce matin et est toujours encerclée par les forces russes. Un convoi du Comité international de la Croix-Rouge a pu entrer en Ukraine. D'ailleurs, au total, ce sont 11 camions qui ont pu acheminer 200 tonnes d'aide d'urgence. C'est ce qu'a affirmé hier soir l'organisation sur les réseaux sociaux. Le chargement rassemblait de la nourriture, du matériel médical pour soigner les blessés ou encore d'autres composantes. C'est vers Mariupol qu'une grande partie de cette aide devrait être acheminée. Selon le CICR, des centaines de milliers de personnes y manquent de nourriture. Et enfin, toujours le CICR qui va faciliter dans la journée l'évacuation de civils de Soumy à 350 km de Kiev. Deux convois de 30 bus au total, pilotés avec la Croix-Rouge ukrainienne, sortiront de la ville. À noter que l'organisation n'a toujours pas pu faire entrer de l'aide dans cette ville où ses collaborateurs prennent en charge des habitants. La situation y est décrite comme extrême. On passe au sport. En hockey sur glace, le rideau est tombé hier soir sur la saison régulière de National League et le verdict n'a pas penché en faveur de Lausanne et Genève Servette. Pour espérer participer aux séries finales, les deux formations lémaniques devront passer par les pré-playoffs. Les Vaudois en découdront dès vendredi avec Ambri Piotta, alors que les Aigles se mesureront à Lugano. En cas de qualification dans cette confrontation au meilleur des trois matchs, le LHC retrouverait en quart de finale Fribourg-Gotteron. Des Dragons qui ont terminé à la deuxième place du classement. Mais la fin du championnat a été difficile pour les Fribourgeois, battus lors de leurs 6 dernières sorties. Notre confrère de Radio Fribourg, Valentin Danzi, tire le bilan de cette saison.
Fribourg-Gotteron a montré deux visages, avec tout d'abord de la constance et quatre lignes qui étaient performantes, et ensuite cette phase plus compliquée en fin de saison avec plusieurs défaites consécutives, principalement à l'extérieur. En play-off, les Dragons auront l'avantage de la glace en quart de finale ainsi qu'en demi-finale. Un avantage certes, mais aujourd'hui la question principale est ailleurs. Gotteron va-t-il réussir à passer en mode play-off ? On le sait, dans les séries finales, le jeu est plus dur. Les hommes de Christian Dubé vont-ils répondre aux défis physiques ? Si la réponse est oui, les Dragons pourront alors déployer leur jeu. Par contre, si la réponse est non, la déception sera alors très grande, car comme toujours, mais encore plus cette saison, les attentes sont énormes.
De son côté, le HC Bienne a pu accrocher de justesse la 6e et dernière place directement qualificative pour les play-offs. En quart de finale, les Célandais seront aux prises avec Zurich. En tennis, Victoria Golubic s'est imposée sur le fil hier en 16e de finale du tournoi d'Indian Wells. La Zurichoise a eu besoin de 3 sets et d'un tie-break dans la dernière manche pour écarter l'Italienne Jasmine Paolini. Elle l'a emporté 7-5, 1-6, 7-6 pour rejoindre la Kazakh Elena Rybakina au tour suivant. Cette rencontre est prévue la nuit prochaine dans le désert californien. Et chez les hommes, Rafael Nadal surfe toujours sur la vague du succès. L'Espagnol accueille une 17e victoire d'affilée en 2022. Il a disposé du Britannique Daniel Evans sur le score de 7-5, 6-3.
En basket, les joueuses du BBC 3 Torrents ont le regard fixé sur les grands rendez-vous de fin de saison.
Le championnat de SB League Women est entré dans sa dernière ligne droite et il est temps pour la formation Chorg d'ajuster les derniers détails. Dans cette optique, les matchs face à des adversaires de bas de classement sont utiles, même s'il s'agit avant tout de les gagner. Une mission que les Chablaisiennes ont parfaitement remplie depuis le début du championnat. Et la rencontre de dimanche à domicile contre le BC Altec Antiarao n'a pas dérogé à la règle. Les Valaisannes, qui l'ont emporté 66-38, n'ont pas laissé la moindre chance à leurs opposantes. En vue des play-offs et de la finale de la Coupe de Suisse, un tel résultat est donc bon à prendre. Les explications de la capitaine du BBC 3 Torrents, Nadia Constantin.
Ça fait du bien, on se retrouve aussi chez nous, sur notre parquet avec notre public. On va essayer de grappiller les victoires et puis de se remettre en confiance pour les matchs, notamment la finale qui arrive bientôt.
Et cette finale, on y pense déjà? Est-ce que c'est déjà en tête? Est-ce que vous en parlez déjà au sein du vestiaire? Comment vous l'abordez, cette finale qui, mine de rien, se rapproche?
Oui, alors c'est vrai, on en parle, certes, mais après, pour l'instant, c'est pas notre focus. On va faire semaine après semaine. Le but, c'est qu'on gagne nos matchs qui arrivent. Et évidemment, la finale est dans nos têtes, mais on la préparera en temps voulu.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. Pour son prochain match de championnat, le BBC Trois-Torrents affrontera une nouvelle équipe du bas de classement. Les Valaisannes accueilleront Puy dimanche à la salle du Reposieux à Monthey.
L'actu en continu, radiochablais.ch.
La météo, avec la médecine esthétique chez Estémédis à la maison de santé de Colombey-Murat et ses nouvelles offres de printemps pour vous sentir bien dans votre corps. Estémédis.ch.
Une ambiance orangée en ce début d'après-midi grâce au sable du Sahara, de la pluie encore peut-être par endroits, sinon le temps devrait passer à un temps sec cet après-midi avec des éclaircies possibles en plaine. En montagne par contre, le temps restera très nuageux avec même du brouillard en altitude. Il va faire au maximum 16 degrés en plaine, 12 à 1000 mètres. Pour demain, un temps ensoleillé nous est annoncé par Météo Suisse avec un ciel qui deviendra de plus en plus voilé au fil de l'après-midi et demain, les températures printanières nous sont annoncées par Météo Suisse de 6 à 18 en plaine, de 5 à 18 à 1000 mètres et de 5 à 12 à 2000 mètres.
La météo pour les 6 prochains jours, radiochablais.ch.